Seigneur, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Très heureux de vous retrouver sur Présence. Il est midi et nous avons plein d'émissions à vous proposer, comme l'interview du jour avec Isabelle Honnel. Elle est avec Père Jean-Jacques Rouchy, prêtre du diocèse de Toulouse, chargé des relations avec l'islam et des relations interreligieuses. C'est dans 10 minutes. Votre sélection télé avec Emmanuel Hernandez. Et ce soir, nous allons avoir droit à de l'humour et de l'aventure. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est dans 20 minutes. Pour ce vendredi, nous partons à Montauban avec le tour des diocèses. Sans oublier votre revue de presse de la part de Marie-Pierre Pavlak. Ça, c'est en fin d'heure. Mais tout de suite, l'essentiel de votre actualité régionale, c'est avec Luc Vidal-Giraud, notre journaliste de Radio Présence Lourdes.
Le Premier ministre l'a annoncé hier soir, les règles ne changent pas pour les 15 prochains jours au moins, le confinement reste en place et un nouveau point sur la situation aura lieu début décembre. La crise sanitaire, elle se poursuit, illustration en Ariège, où suite à la confirmation de 6 cas positifs au coronavirus parmi ses élèves, le collège Mario Beleg à Ax-les-Thermes a annoncé sa fermeture jusqu'au jeudi 19 novembre prochain. En Aveyron, la situation est toujours pour le moins tendue pour l'hôpital de Rodez. Le directeur de l'hôpital rappelle que si le centre hospitalier fait actuellement face, il faut garder à l'esprit que 70% de la chirurgie a été déprogrammée. Le conseil départemental de la Haute-Garonne adopte une nouvelle série d'aides financières destinées à renforcer les dispositifs exceptionnels de soutien aux acteurs économiques mis en place en avril dernier. Ainsi, le fonds de prévention de la précarité et le fonds exceptionnel de soutien au monde associatif sont prolongés jusqu'à la fin 2021. L'anesthésiste belge poursuivi pour un accouchement fatal pour la mère qu'elle avait pratiqué en étant ivre à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques a été condamné hier à 3 ans de prison ferme et à l'interdiction définitive d'exercer la médecine. Un nouveau satellite conçu et construit à Toulouse doit prendre le chemin de l'espace dans la nuit du 16 au 17 novembre. Baptisé Taranis et piloté par le CNES, sa mission vise à mieux comprendre certains phénomènes lumineux qui surviennent lors des orages. Le chantier du téléphérique toulousain avance. Les premiers câbles ont été installés hier. Une fois en service, ce projet permettra de réaliser le trajet de l'université Paul Sabatier à l'Oncopole en 10 minutes contre plus de 40 en voiture actuellement. Et puis en rugby, 9e journée du top 14. Ce soir, Castres reçoit Bègles-Bordeaux. Demain, Pau accueille le Stade de Toulouse.
Merci Luc, on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'actualité régionale.
La météo.
Pour cet après-midi, grand soleil, 17 degrés en moyenne dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Demain, premier jour du week-end, le thermomètre affichera 10 degrés près du musée Champollion à Figeac, ainsi que dans les Hautes-Pyrénées, quelques nuages dans le Gers et près de la Halle aux Grains à Toulouse, vous aurez 13 degrés. Pour l'après-midi, là aussi, vous aurez un temps agréable avec de belles températures, 19 dans le Lot, ainsi qu'au golfe de Hoche et près du funiculaire du pic du Gers à Lourdes et à Saint-Gaudens. 15 dans l'Aveyron. Pour dimanche, le matin, un temps très nuageux et l'après-midi, de rares gouttes près de Cahors, de gros nuages pour le Gers et dans les Hautes-Pyrénées. Partout ailleurs, des rayons de soleil. Il fera 19 degrés de moyenne.
Présence à Toulouse, 97.9.
Isabelle Honnel, vous recevez le père Jean-Jacques Rouchy, prêtre du diocèse de Toulouse, pour parler islam et caricature.
Et oui, près d'un mois après l'assassinat de Samuel Paty devant son lycée de Conflans-Sainte-Honorine, nous prenons ce matin le temps de la réflexion. Avec mon invité, nous essayons de comprendre, sans évidemment trouver des justifications à la violence, comprendre ce que la figure de Mahomet représente pour un musulman, ce qu'une caricature a pour lui d'insupportable. Bonjour père Jean-Jacques Rouchy.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse, délégué épiscopal, chargé des relations avec l'islam et des relations interreligieuses. Alors, notre sujet ce matin est éminemment sensible. Nous allons prendre toutes les précautions nécessaires. Si toutefois nous devions heurter certains auditeurs, je l'ai pris d'avance de nous en excuser. C'est évidemment pas notre propos. Père Jean-Jacques Rouchy, par votre mission, vous êtes quotidiennement en lien avec les autorités musulmanes locales ici à Toulouse. Vous êtes en lien avec des croyants également. Est-ce que vos relations se sont trouvées modifiées par les événements récents ?
Tout à fait. Beaucoup modifiées et beaucoup en bien.
Ah, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je n'ai jamais autant reçu de messages, soit officiels, soit officieux, de soutien, de condoléances, de condamnations qu'au cours de cet attentat. Et beaucoup, beaucoup de, en particulier, tous les délégués épiscopaux des diocèses de France ont reçu des condoléances ou des messages de soutien de la même nature, ce qui ne s'était jamais produit. Donc ça, c'est au niveau officiel. Et au niveau officieux, alors, bon, tous les amis, toutes les connaissances ont non seulement donné des messages de soutien, mais trouvé dans la tradition musulmane beaucoup de, soit des passages du Coran, soit des passages de la tradition du prophète, pour condamner de tels actes. Donc ça ne s'était jamais produit à ce niveau.
Et comment vous l'expliquez ?
Alors, je l'explique par d'abord les liens interpersonnel qui se tisse.
Oui, mais que ça soit que ça ait atteint un tel niveau.
Et en même temps, c'est une réaction évidemment qui doit être conçue dans le contexte social actuel.
Donc,
au-delà de la réaction spontanée et sincère, il y a effectivement la volonté de lutter contre le fameux amalgame et de s'engager vraiment. Alors, personne ne peut représenter la totalité des musulmans.
Bien sûr.
Mais il y a cette volonté, justement, de montrer que tous les musulmans condamnent ce genre d'actes. Sauf, évidemment, quelques intégristes ou quelques djihadistes ou quelques terroristes.
C'est important ce que vous dites, parce qu'on ne les a pas beaucoup entendus, ces personnes, mais on l'entend à travers vous, par des voix officielles et des liens interpersonnels, elles se manifestent.
Voilà, il y a eu beaucoup d'expressions, de beaucoup d'entités, en particulier les scouts musulmans de France, tous les officiels, beaucoup d'associations, beaucoup de conseils d'administration de mosquées, enfin, ça a été vraiment... très, très considérable.
Eh ben, c'est une bonne chose. Alors ce matin, on va essayer de mieux découvrir ces musulmans qui parfois nous font peur et découvrir surtout ce que représente Mahomet pour un musulman.
Alors Mahomet, pour un musulman, c'est celui qui a été choisi par Dieu pour faire descendre un message direct. Mahomet n'est pas l'auteur du Coran. Et paradoxalement, le fait qu'il n'en soit pas auteur et que le message vienne directement de Dieu lui confère un statut tout à fait exceptionnel. Et de plus, c'est un homme comme tous les autres, mais il est devenu au fil des siècles le beau modèle. C'est donc la perfection de la réalisation de la religion dans une personne humaine.
Est-ce qu'il a une forme de sacralité ?
C'est une hyper-sacralité. Alors Dieu seul est sacré. Et c'est précisément pour cela qu'il ne faut rien représenter, ni même le prophète. Il y a une double interdiction, si vous voulez, de représenter le prophète. La première, c'est une interdiction qui remonte au judaïsme et qui imprègne profondément les mentalités, y compris des musulmans depuis de nombreux siècles, pas d'idolâtrie. Et de plus, puisque cet homme a transmis l'image d'un Dieu qui se révèle directement, rien ne doit être l'objet d'un culte, sinon Dieu, et donc pas le prophète non plus. Et c'est aussi pour cela qu'on ne doit pas représenter le prophète, parce qu'il est un homme et qu'il ne faut pas représenter les hommes, et surtout parce qu'il ne doit pas être un écran dans l'adoration qui n'est due qu'à
Dieu. Une idole, en fait. Une idole.
Il ne doit pas être une idole, mais surtout pas lui. Si vous voulez, puisqu'il transmet un message anti-idolatrique absolu. Donc il ne faut surtout pas l'idolâtrer à lui. Et c'est pour ça qu'on va interdire sa représentation. Et c'est un interdit qui est profondément ancré dans la conscience de tous et dans la culture. Donc paradoxalement, on pourrait avoir des musulmans athées, parce qu'il y en a, mais qui respectent culturellement, je dirais viscéralement, au-delà même de leur propre foi, cet interdit qui est un interdit majeur.
Un interdit inscrit dans le Coran ?
Ce n'est pas inscrit dans le Coran. C'est, si vous voulez, c'est infra-coranique. C'est diffus dans le Coran. Ça fait partie de l'interdiction générale des idoles. Et alors, ce phénomène a été accru par le wahhabisme, qui en particulier a détruit beaucoup de vestiges de l'époque du prophète, précisément pour qu'on n'en fasse pas un lieu d'idolâtrie, pour qu'il n'y ait pas un culte à Mohammed. Donc le wahhabisme a encore surévalué cet interdit. Alors quand on fait un film, par exemple, sur Mohammed, on ne le montre jamais. Et quand il y a des miniatures, hein, alors ça c'est un peu limite par rapport à l'interdit religieux, mais les miniatures persanes en particulier, on représente la personne du prophète, mais jamais son visage.
Donc on comprend, hein, l'émoi.
C'est très profond, si vous voulez, c'est culturel, c'est viscéral, c'est fondamental.
On comprend donc l'émoi à propos voilà. des caricatures. Hein. Et alors, à propos du meurtre de Samuel Paty, justement, hein, le grand imam égyptien d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayeb, celui-là même qui a inspiré le pape, on en a parlé la semaine dernière pour son encyclique Fratelli Tutti, et qu'on ne peut donc pas suspecter de fanatisme, hein. Il a donc condamné l'acte criminel odieux, donc il a condamné l'acte comme vos amis musulmans, tout en soutenant cependant qu'insulter des religions et attaquer leurs symboles sacrés au nom de la liberté d'expression est un double standard intellectuel et un appel à la haine. Père Rouchy, c'est là qu'on a un problème tout de même, car nous avons manifestement des logiciels de pensée très différents. Notre République, la République, est très attachée à la liberté d'expression, à son corollaire, la laïcité. Est-ce qu'il faudrait y renoncer pour ne pas mettre d'huile sur le feu, pour reprendre l'expression là de Mgr Le Gall ?
Il ne faut pas. Personne ne doit renoncer à ses valeurs.
Et à la liberté d'expression non plus ?
Tout le monde a le droit d'avoir ses valeurs. Nous avons le droit de considérer même que ces valeurs sont exemplaires, hein, et que nous souhaitons les faire partager aux autres. Donc nous avons une longue histoire, hein, au terme de laquelle nous pouvons saisir la réalité de deux manières. Hein. Une manière, hein, effectivement, que l'on pourrait appeler de façon un peu anachronique laïque. Hein. Dès les origines du judaïsme, le soleil et la lune ne sont pas des dieux. Ils sont là pour faire le calendrier, ce qui est horrible pour tout païen. Donc déjà, dans le judaïsme, nous avons cette distanciation entre, si vous voulez, une pensée rationnelle, pour parler en termes modernes, et une pensée religieuse. Et d'ailleurs, les deux se fécondent réciproquement.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la liberté d'expression ?
Alors, la liberté d'expression, si vous voulez, ça c'est dans notre système laïque, la démocratie suppose l'expression libre de toutes les opinions. Mmh. Et donc, dans notre Occident, enfin dans notre France, qui a été chrétienne, nous avons fini au bout d'un siècle, nous, l'Église catholique, par adhérer à cette vision laïque, dans la mesure où elle n'est pas opposée à la religion. Mais c'est un petit peu dans nos gènes culturels et même dans nos gènes évangéliques. Lorsque un homme arrive devant Jésus pour lui demander d'intervenir dans le partage successoral avec son frère, Jésus lui dit « Mais qui m'a instauré pour réaliser vos partages ?» Mm-hmm. C'est-à-dire Jésus refuse même d'être un nouveau Moïse qui donnerait une loi. Et le livre de la Sagesse dit que Dieu a laissé l'homme à son conseil. Donc la religion a sa place dans la structuration de la vie, mais elle ne doit pas être le fondement de la structuration de la vie. Évidemment, elle porte des valeurs, elle propose des valeurs, donc, et malheureusement... Enfin,
mais sur le logiciel différent dont je vous parle...
Les musulmans ont un système différent. Il n'y a pas ce référent autre que religieux pour fonder le lien social. Alors même si quelques élites occidentalisées le pensent, même si les formes extérieures des États ont aussi des républiques, bon, des démocraties avec beaucoup de guillemets, il y a des démocrates sincères chez les musulmans évidemment, mais le fondement du lien social ancré dans la conscience du peuple en particulier, c'est justement que la religion fonde le lien social.
Ça veut dire qu'il ne faut pas projeter sur eux notre façon à nous de penser.
Nous devons tenir compte de cette différence culturelle. Et c'est un peu le drame, si vous voulez, des caricatures. Il y a un malentendu fondamental. Les auteurs des caricatures ont une bonne intention. Ils veulent faire rire pour faire réfléchir et dénoncer l'outrance des religions. Ça, c'est ce que nous sécrétons, si vous voulez, comme un logiciel. Mmh. Et donc, leur intention est bonne. Et elle n'est pas directement contre la religion. Mais elle n'est pas du tout reçue comme ça.
Ça veut dire quoi, Père ? Ça veut dire qu'il faut faire attention. L'usage de notre liberté d'expression doit être à l'aune du public que l'on a face à soi, c'est
si
ça ?
Voulez, la liberté d'expression n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est nous souhaitons faire adhérer les autres à nos valeurs, parce que nous pensons qu'elles sont positives. Pour apprendre l'anglais à John, il faut connaître l'anglais, mais il faut connaître John. Si vous faites d'abord détester l'anglais à John, vous ne lui apprendrez jamais l'anglais. Mmh. Donc, si vous prenez un rebrousse-poil, justement, pour illustrer cette valeur qui est pour nous positive, d'une façon simplement pédagogique, il ne faut pas heurter d'abord la sensibilité de l'autre, sinon il ne partagera jamais nos valeurs. Bon, et il y a une autre dimension, alors, qui est, si vous voulez, du respect. Alors, le problème, l'intention des caricaturistes était bonne, mais le résultat obtenu, ça a été des meurtres. C'est pas du tout ce qu'ils voulaient.
Non.
Donc, pourquoi ça s'est produit ? Précisément parce qu'ils ne connaissent pas, et donc c'est une forme, excusez-moi, paix à leur mémoire, mais d'inculture. Ils ne tiennent pas compte du destinataire à qui ils vont s'adresser. Même si leur premier destinataire, c'est la société française, lorsque Samuel Paty a voulu présenter les caricatures à ses élèves, bon, il a bien senti qu'il y avait quelque chose qui coinçait, puisqu'il aurait averti les musulmans de détourner le regard ou autre. Mais, si vous voulez, c'est méconnaître le côté que j'appelle viscéral, spontané, hein, du respect qui est dû à certaines choses. Et donc, avant d'expliquer, de décortiquer, de décoder le message de la caricature, il aurait fallu commencer, par exemple, par des pamphlets. Dans la culture arabo-islamique, il y a des poètes qui se sont moqués du prophète. Il y a des pamphlets de Voltaire. Il y a les dessins de plantus ou de nains qui promeuvent aussi la liberté d'expression, mais si vous voulez, dans un premier temps, d'une façon plus douce.
On ne renonce pas, hein, pour résumer votre propos.
Pas.
On renonce pas à notre liberté d'expression, mais si je résume, on fait appel à notre intelligence et on sort de notre, ce que vous avez appelé notre suffisance culturelle, hein, qui nous fait croire que tout le monde pense comme nous, c'est ça ?
Exactement.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'autocensure ?
Si nous voulons que les autres adhèrent à notre système, il faut le leur présenter sous le meilleur jour. Donc, si vous voulez, pour promouvoir la liberté d'expression, par rapport à la sensibilité musulmane, les caricaturistes ont pris le plus mauvais chemin possible. Voyez ?
Un grand merci, Père. Malheureusement, il y aurait beaucoup pas dire. Là, on a amorcé ce matin ensemble une réflexion. Et comment ne pas penser d'ailleurs aujourd'hui, hein, aux 130 victimes du Bataclan, mortes il y a tout juste 5 ans. C'était le 13 novembre 2015, sous les balles des terroristes islamistes. Un grand merci, Père Jean-Jacques Rouchy. Je rappelle que vous êtes chargé des relations avec l'islam et des relations interreligieuses pour le diocèse de Toulouse. Merci.
Radio Présence, aux portes du Tarn. 97.9.
Votre sélection télé dans 4 minutes avec Emmanuel Hernandez. Pour bien commencer ce week-end, il y aura de l'aventure, de l'humour et un dessin animé pour toute la famille. En attendant, nous allons aller à côté de votre lac préféré dans l'Occitanie avec Julien Doré. Bon appétit, il est midi 18.
La mer de Nona et le lac se dessine. Courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Je reviendrai fort, Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Mais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre.
L'agenda télé du jour avec Imanol Hernandez. Imanol, qu'allons-nous regarder ce soir à la télé?
Bonjour Florian, bonjour à tous. Un cette fin de semaine plein de choses à regarder à la télé ce soir. Koh-Lanta, ça vous dit Florian?
Ah oui, bientôt la finale d'ailleurs.
Et oui, ce soir à 21h sur TF1, il ne reste désormais plus que 8 aventuriers à s'affronter aux Fidji. La finale approchant, comme vous l'avez dit Florian, chacun a bien conscience que les places sont chères. Les derniers candidats, autrefois membres de la tribu rouge, se sentent plus menacés que jamais, mais à Koh-Lanta, rien n'est jamais joué d'avance et certains pourraient bien se montrer particulièrement astucieux pour échapper à l'élimination. Le moyen le plus sûr d'y parvenir demeure toutefois de remporter l'épreuve d'immunité et le précieux totem qui permet à son détenteur d'être protégé lors du conseil. Vous avez des boîtes à secrets chez vous, Florian?
Alors non, mais sur France 3 à 21h, il y a les boîtes à secrets, non?
Exactement. Faustine Boller accueille Anne Roumanoff, Amir et Vincent Niclot. Ce soir, sur France 3 à 21h, ils auront le plaisir de découvrir des surprises réalisées avec la complicité de leurs proches. Joie, émotion, fou rire, retrouvailles et révélations sont au menu de la soirée. Alors préparez-vous à chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère, découvrir des archives personnelles et des invités, ou pénétrer dans leur sphère privée avec des images exclusives tournées avec leur entourage. Ça donne envie, hein, Florian?
Ah oui. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer d'autre pour ce soir?
Eh bien, j'ai un spectacle d'humour ce soir sur C8 à 21h25. Après, Je parle toute seule, qui a été un franc succès, Blanche Gardin débarque avec Bonne nuit Blanche. À l'aube de ses 40 ans, l'humoriste pratique sur scène une longue introspection à la fois drôle, amusante et impertinente, à coups de petites confidences et anecdotes vécues. La jeune femme passe ainsi en revue les petits travers de la société. Elle s'interroge également sur les thèmes tels que la solitude, les relations amoureuses, l'écologie, le réchauffement climatique, les gilets jaunes, les hommes et les femmes politiques, enfin plein de choses qui vont vous faire mourir de rire. C'était ma sélection télé du soir et n'oubliez pas, ce soir il y a Tintin sur Gulli, la numéro 18 sur la télécommande, je ne cesserai de vous le répéter. Une très bonne fin de semaine à tous et à toutes, à la semaine prochaine pour le Radio Don Florian.
Ah, Imanol Hernandez, vous êtes un grand enfant. À lundi pour la sélection télé du soir et pour le Radio Don.
Radio Présence à Toulouse.
97.9.
L'essentiel de l'actualité, c'est avec Luc Vidal-Giron en Occitanie. Que vous soyez à Lourdes, Saint-Gaudens, Toulouse, Figeac, nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Bonjour à tous, c'était prévisible. Le Premier ministre l'a annoncé hier soir, les règles ne changent pas pour les 15 prochains jours au moins. Le confinement reste en place et un nouveau point de la situation aura lieu début décembre. La crise sanitaire se poursuit, illustration notamment en Ariège, où suite à la confirmation de 6 cas positifs au coronavirus parmi ses élèves, le collège Mario Belègue à Ax-les-Thermes a annoncé sa fermeture. Il restera fermé jusqu'au jeudi 19 novembre prochain. Les cas positifs ont été enregistrés parmi des élèves de la section sport de l'établissement. La préfète de l'Ariège a donc décidé, en concertation avec l'Agence régionale de santé, l'inspection d'académie et le conseil départemental de l'Ariège, la fermeture du collège à compter d'aujourd'hui. Toujours selon les services de l'État, 11 professeurs sur les 18 que compte l'établissement et 6 assistants d'éducation ont été identifiés comme contact à risque. Les collégiens sont placés à l'isolement. En Aveyron, la situation est toujours pour le moins tendue pour l'hôpital de Rodez. Si l'établissement n'a pas eu recours à des transferts de patients vers d'autres hôpitaux, il flirte avec ses limites de capacité et la décrue espérée se fait encore attendre. Le directeur de l'hôpital de Rodez rappelle que si le centre hospitalier fait toujours face, il faut garder à l'esprit que 70% de la chirurgie a été déprogrammée. Toujours à propos de cette crise sanitaire, le contrôle aux frontières se renforce, notamment avec l'Espagne. Dans les Pyrénées-Atlantiques, qui ont reçu le renfort de 191 militaires, gendarmes et policiers, au moins 7 points de passage sur les 19 que compte le département devraient être fermés. Il s'agira de points très peu utilisés. L'objectif de cette mise en place, a expliqué le préfet des Pyrénées-Atlantiques, est, je cite, de lutter contre l'immigration illégale, le terrorisme et le trafic de drogue. Le conseil départemental de Haute-Garonne adopte une nouvelle série d'aides financières destinées à renforcer les dispositifs exceptionnels de soutien aux acteurs économiques mis en place en avril dernier. Ainsi, le fonds de prévention de la précarité, doté de 3 500 000 euros, est prorogé jusqu'à la fin 2021 et ses modalités d'accès sont élargies. Ce fonds est destiné aux personnes ayant subi une perte de revenus du fait de la crise sanitaire du Covid-19. Désormais, un demandeur pourra bénéficier plusieurs fois de ce soutien financier et le cumuler avec les aides accordées par l'État et la région. Et puis le fonds exceptionnel de soutien au monde associatif, doté de 3 millions d'euros, mis en place au mois de mars, est également prolongé jusqu'à la fin 2021. Il permet de pallier les pertes financières des acteurs associatifs causées par l'arrêt de toutes les activités collectives en raison d'épidémies. Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet du conseil départemental de Haute-Garonne. L'anesthésiste belge poursuivi pour un accouchement fatal pour la mère qu'elle avait pratiqué en étant ivre, c'était à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, a été condamné hier à 3 ans de prison ferme et à l'interdiction définitive d'exercer la médecine. Elle a par ailleurs été sommée de verser près de 1,4 million d'euros de dommages et intérêts aux proches de la victime, à savoir son fils, son compagnon de l'époque, sa sœur et ses parents. Le verdict du tribunal correctionnel de Pau est conforme aux réquisitions du parquet. C'est un débat qui prend forme au niveau national et qui n'épargne pas les établissements toulousains. Les frais de scolarité des grandes écoles de commerce ne sont-ils pas disproportionnés? Début novembre, face aux conséquences de la crise sanitaire sur l'année scolaire, un étudiant de la Toulouse Business School a créé une pétition sur Internet à ce sujet. Elle stipule que si la situation actuelle est inhérente à la crise du Covid-19 et indépendante de la volonté de l'école, la qualité de cette année scolaire est loin de celle décrite par l'administration au moment où les étudiants ont fait leur choix d'école. En conséquence, poursuit le texte, nous espérons donc que nos frais de scolarité soient revus à la baisse. La direction de l'hôpital indique avoir déjà levé des fonds via sa fondation pour accompagner au mieux ces étudiants en situation de difficulté financière. Elle annonce le lancement d'une nouvelle campagne d'appel aux dons. Ce sujet des frais de scolarité n'est pas pour autant clos. Concernant l'ensemble des écoles de management françaises, une réflexion commune a été engagée au sein du chapitre des écoles de management de la conférence des grandes écoles. Un nouveau satellite conçu et construit à Toulouse doit prendre le chemin de l'espace dans la nuit du 16 au 17 novembre. Baptisé Taranis et piloté par le CNES, sa mission vise à mieux comprendre certains phénomènes lumineux qui surviennent lors des orages. Le programme a mobilisé tous les métiers du spatial et tous les services techniques du CNES à Toulouse. Cela représente plus de 400 personnes. Pour cette mission, le CNES, qui est maître d'œuvre de Taranis, s'est entouré du CNRS et du CEA. La mission représente 115 millions d'euros de budget, dont 36 millions pour le seul satellite. Le chantier du téléphérique toulousain avance. Les premiers câbles ont été installés hier à l'aide d'hélicoptères. Avec ses 3 km, ce téléphérique urbain sera le plus long jamais construit en France. Une fois en service, ce projet, aussi appelé 5 ceinture sud permettra de réaliser le trajet de l'université Paul Sabatier à l'Oncopole en 10 minutes contre plus de 40 en voiture actuellement. Il permettra également une connexion entre de nouvelles lignes de bus créées pour l'occasion, la ligne B du métro et la future troisième ligne du métro. Rugby, 9e journée du top 14. Ce soir, Castres reçoit Bègles-Bordeaux. Demain, Pau accueille le Stade Toulousain.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour un nouveau point sur l'actualité régionale.
La météo.
Pour cet après-midi, grand soleil, 17 degrés en moyenne dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Demain, premier jour du week-end, le thermomètre affichera 10 degrés près du musée Champollion à Figeac, ainsi que dans les Hautes-Pyrénées, quelques nuages dans le Gers et près de la Halograin à Toulouse, vous aurez 13 degrés. Pour l'après-midi, là aussi, vous aurez un temps agréable avec de belles températures, 19 dans le Lot, ainsi qu'au golfe de Hoche et près du funiculaire du pic du Gers à Lourdes et à Saint-Gaudens. 15 dans l'Aveyron. Pour dimanche, le matin, un temps très nuageux et l'après-midi, de rares gouttes près de Cahors, de gros nuages pour le Gers et dans les Hautes-Pyrénées. Partout ailleurs, des rayons de soleil. Il fera 19 degrés de moyenne. Le tour des diocèses avec Isabelle Honnel et nous partons dans le Tarn-et-Garonne où vous pouvez nous écouter sur le 93.3.
Et oui, nous partons ce matin en direction du diocèse de Montauban. On y retrouve Monseigneur Bernard Ginoux, l'évêque du diocèse. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Isabelle et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et bonne journée qui commence.
Et oui, bonne journée, on l'espère, sous le soleil peut-être bientôt. Monseigneur, on a parlé tout à l'heure de la cathédrale dans le journal. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques nouvelles?
Ah, évidemment, c'est la nouvelle du moment. Bien sûr, d'autant que il n'y a pas beaucoup d'autres, plus le confinement et ce que nous avons dû remettre. Eh bien oui, le matin de la Toussaint, enfin dès le 30 octobre, on s'est aperçu qu'il y avait des fissures dans la cathédrale, qui étaient dans la première travée de la nef de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, en Montauban. C'est une magnifique cathédrale de site classique et dans son unité. Des témoins avaient été posés et lundi dernier, il y a donc eu une première réunion des services du patrimoine, de l'architecte en chef des monuments historiques, etc. La direction régionale des affaires culturelles, qui est à Toulouse, la DRAC, pour faire plus simple. Et il a été installé des capteurs de surveillance, donc qui vont être, enfin, il a été prévu l'installation, enfin un jour, des capteurs de surveillance qui vont surveiller de près ces fissures, ces lézardes, qui sont visibles de l'extérieur aussi, entre les fenêtres hautes et les grandes arcades de la façade de la cathédrale. Ainsi, c'est donc visible à l'intérieur et à l'extérieur, et à l'intérieur, l'orgue est c'est de part et d'autre de l'orgue, ce qui poserait un problème s'il fallait avancer dans des travaux par rapport à l'orgue qu'il faudrait déposer, ce qui ne serait pas rien. Donc, malgré les restaurations qu'il y a eu dans les années passées, les surveillances qu'il y a, bien entendu, tout le monde s'interroge sur la reconstruction du parking de la place dite de la cathédrale, en fait la place Roosevelt, mais peu importe, ce parking gigantesque dont vous avez peut-être vu des photos, comportera 5 niveaux, ça y est, il est en train d'être fini puisqu'il est livrable en cours de 2021 et il a débuté en 2019
et
il fait un immense espace de travaux. Alors il faut savoir s'il y a un lien direct entre ce parking et les fissures de la cathédrale, ou si c'est indépendant. Donc tout est à l'étude, et ce que j'ai dit aux confrères de la presse écrite, je ne peux pas en dire grand-chose. La cathédrale est ouverte pour l'instant, on peut y venir prier, je ne crains pas qu'elle s'effondre sur nos têtes brusquement de cette manière-là, mais il y a sans aucun doute une question à approfondir de la part des experts qui sont très très présents, et le journal local pourrait titrer « La cathédrale sous surveillance ». Voilà ce que je peux vous dire, en rassurant les auditeurs qui peuvent venir prier. Les experts, pour l'instant, n'annoncent pas cette chute.
Alors, on garde son masque, mais pas de casque encore dans la cathédrale de Montauban, hein?
Pas de casque et possibilité de prier, puisque faute de messe publique, les chrétiens, les catholiques peuvent venir prier, et que dimanche matin à 9h, comme je l'ai déjà fait dimanche dernier, je dirai la messe, retransmise sur la chaîne YouTube du diocèse, pour tous les fidèles qui veulent bien suivre. Les coordonnées sont données sur le site du diocèse. Voilà pour la vie de l'Église. Bien sûr, beaucoup de réunions étaient prévues, n'ont pas été. Je dois dire aussi qu'il y a eu un deuxième fait divers en même temps que la cathédrale, dont peut-être les auditeurs ont entendu parler, c'est qu'à Montpezat de Quercy, la semaine dernière, début de semaine, dans une petite réplique de Lourdes, enfin petite, une réplique de la grotte de Lourdes, oui, sur le chemin qui mène à la collégiale, une vierge a été décapitée, ensemble. Alors, il a fallu calmer les esprits. Bien sûr, c'est choquant, mais les gendarmes m'avaient dit que c'était probablement des voyous sur lesquels ils avaient déjà l'œil. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ces voyous ont été interpellés et ils ont reconnu les faits. Donc, ça a pu apaiser les esprits. Vous voyez, ils ne sont pas ces choses quand même. Dans le calme d'un diocèse, Montpezat de Quercy, une magnifique collégiale et tout, et les gens étaient outrés. Je comprends, mais voilà. Donc, vous voyez, il y a des choses qui font vivre, pas toujours à bon escient, mais enfin, qui font vivre et qui font parler.
Eh bien, merci beaucoup.
Nous sommes prêts pour le Radio Don. J'espère que tous les Montalbanais aussi et tous les départements.
Et merci, voilà. Merci, Monseigneur. On compte sur vous, évidemment, pour le Radio Don. Je crois que vous serez parmi nous.
Avec vous et même en présentiel, paraît-il.
Eh bien, bravo, merci. On sera là et ensemble pour faire vivre notre radio. Merci beaucoup, Monseigneur.
Merci, Isabelle. Bonne journée. Merci.
La revue de presse chrétienne. Avec Marie-Pierre Pavlak.
Isabelle Honnel, qu'est-ce que l'on fait ce week-end en Occitanie ? On fait rien ?
On fait pas rien, on lit ce week-end. On lit, on se promène, mais on lit grâce à Marie-Pierre Pavlak. Ou bien alors, on n'a même pas besoin de lire, puisque Marie-Pierre Pavlak a lu pour nous la presse. Cette nouvelle chronique que nous propose Marie-Pierre Pavlak, la revue de presse. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Isabelle, bonjour Jonathan.
Alors, dans une actualité toujours plus dense, toujours plus pressante, et qui ne cesse de nous plonger au cœur de l'immédiateté, Marie-Pierre, ce matin, vous nous racontez l'histoire de l'équilibriste de Solesmes. Tiens, tiens.
Oui. Isabelle, il en faut de l'équilibre pour concilier le temps de Dieu et le temps des hommes, pour concilier vie religieuse et vie publique. Frère bénédictin à l'abbaye de Solesmes, Jean-Philippe Duval est aussi depuis 2014 conseiller municipal.
Ça alors ?
Alors, au printemps 2020, il a entamé son second mandat. C'est une histoire à écouter, à découvrir sur le site du journal La Croix, dans ses podcasts « Place des religions ». Alors, dans cet entretien, et non sans humour, il raconte à nos confrères de La Croix comment cette vocation politique qu'il n'a pas choisie lui est tombée dessus quand le père abbé lui a demandé de prendre le relais du moine qui occupait ce poste. Car, et je le découvre en écoutant ce podcast, l'abbaye fondée il y a plus de 1000 ans est représentée au conseil municipal du village depuis le 19e siècle.
Ça alors ?
Le frère Jean-Philippe Duval témoigne de la manière dont il vit cet engagement, pour le moins particulier, enfin pour un moine. Hein. Il souligne aussi le climat de confiance qui règne autour de sa présence au conseil municipal, et cela sans controverse aucune autour de la laïcité.
Ah, la fameuse laïcité, c'est aussi l'un des dossiers du magazine Le Pèlerin cette semaine. Hein.
Oui, Le Pèlerin qui s'interroge. Pourquoi la laïcité française est-elle incomprise ? Spécialiste des relations entre l'Église et l'État, l'historien Paul Choplin décrypte le malentendu suscité par la laïcité française à l'étranger. Il dit « En France, la laïcité s'est construite au début du XXe siècle dans un contexte très fort d'anticléricalisme face à l'Église catholique. Dans d'autres pays, ce phénomène s'est fait dans un contexte très différent. » En France, nous avons fait le choix d'une morale sécularisée qui l'emporte sur une morale religieuse strictement privée. En France, l'Église a intégré cela.
Et entre politique et religion, comment concilier les besoins de l'âme ?
Alors, les besoins de l'âme, voilà ce que la politique doit prendre en charge. Les besoins de l'âme, c'est-à-dire la vie affective, intellectuelle, morale, spirituelle, des besoins vitaux de l'être humain, des nécessités analogues à celles de la nourriture. Voilà, ce sont des mots à lire dans les colonnes de La Vie sous la plume du dominicain Pascal David, spécialiste de la philosophe Simone Veil. Il vient d'ailleurs de publier Simone Veil, un art de vivre partant de catastrophes. Simone Veil qui en 1938 écrivait, écoutez bien, « La diffusion des grandes espérances héritées des siècles précédents est en train de s'effriter. Espoir d'un bien-être général, espoir d'une démocratie, espoir de paix. »
La vie qui se demande si le projet républicain est encore capable de faire rêver les jeunes.
Oui, dans un dossier étoffé, nos confrères de la vie ont questionné l'historien Patrick Cabanel, professeur d'histoire contemporaine à l'université Jean-Jaurès à Toulouse entre 1999 et 2015. Comment faire pour recréer du commun et de la cohésion nationale ? Patrick Cabanel, on revient à l'école, encore et toujours, et au rôle joué par les professeurs. Dans ce même dossier, vous lirez l'interview de la philosophe Cynthia Fleury. « Nous vivons, dit-elle, dans une ambiance de ressentiment. Elle parle même d'auto-empoisonnement de l'individu. » Et elle ajoute...
Carrément.
Carrément, Isabelle. Dans un contexte mondial très difficile, face à des nations multiculturelles, face au retour en force de la politisation du religieux, l'école, encore et toujours, reste ce lieu où peut s'incarner ce projet républicain.
Et des jeunes, on passe aux personnes dites âgées.
Oui, Isabelle, et dans ces temps où, pour leur bien, on voudrait mettre les personnes âgées en retrait, j'ai lu dans le journal La Croix de ce jeudi un article réjouissant de notre confrère Aurélien Lachaud. Je le cite. Les vieux, jeunes héros de la BD. Il nous raconte comment, dans l'histoire du 9e art, les personnes âgées ont longtemps été secondaires, oubliées ou caricaturées. Avec bonheur, je me suis attardée sur une planche de Prudence Petit Pas, de Carmen Cru, de Mamette ou encore des vieux fourneaux, ces trois septuagénaires rebelles qui ne se font pas dicter les lois, leurs lois.
Et pour terminer, des histoires d'hommes et de femmes au service d'un monde plus fraternel et plus solidaire.
Des histoires à lire dans le magazine La Vie de cette semaine qui met à l'honneur les quatre lauréats de son prix Espérance édition 2020. Et dont très très grand cocorico, deux sont issus de notre ancienne région Midi-Pyrénées. Alors, dans la catégorie Agir, prix du jury pour le camion douche de Toulouse. Un camion qui sillonne les rues de Toulouse pour permettre aux femmes qui vivent dans la rue de prendre une douche en toute intimité. Et aux commandes du camion, Héloïse et son père Jérôme Brière.
On les recevra bientôt.
Et dans la catégorie Croire, prix des lecteurs pour les 25 moniales de l'abbaye de Boulors, que l'on ne présente plus. Et ce, pour leur projet, une ferme cistercienne du 21e siècle. Entre le monde et Dieu, fragile équilibre et espérance chrétienne, ouvrir l'avenir pour d'autres.
Oh, comme c'est joliment dit. Merci beaucoup Marie-Pierre Pavlak pour cette revue de presse du 13 novembre. Revue de presse chrétienne à retrouver et à réécouter sur notre site en podcast. Merci beaucoup Marie-Pierre, à la semaine prochaine.
La revue de presse chrétienne avec Marie-Pierre Pavlak. Radio Présence, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Comme tous les jours, votre évangile sur Présence en ce vendredi 13 novembre, en attendant Véronique Sanson et son titre sorti en 1972, « Besoin de personne ».
L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu.
Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Rappelez-vous la femme de Lot. Par ces quelques mots, le Seigneur nous invite à ne pas regarder en arrière. En effet, le jour où Sodome a été détruite, la femme de Lot a regardé en arrière et a été changée en statue de sel. Et pourtant, qu'il est tentant de regarder en arrière, qu'il est tentant de se souvenir de tous les moments de bonheur que nous avons vécu sur cette terre et qui sont dans le passé. Il en est de même d'ailleurs pour Sainte Bernadette. Lorsque on a la chance de pouvoir venir ici à Lourdes et de visiter la première maison des époux Soubirous, le moulin de Boli, on comprend, comme le raconte Bernadette, que ce moulin était la maison du bonheur pour Bernadette, de ses jeunes années. Et pourtant, Akiro lui va fallu faire une promesse. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Donc, il y a cette invitation à aller de l'avant. Aller de l'avant pour Sainte Bernadette, c'était immédiatement pouvoir, malgré la maladie, aller au catéchisme, apprendre le français et faire sa première communion, recevoir l'Eucharistie. Il n'est pas simple d'aller de l'avant. Encore une fois, il est tentant de regarder en arrière, de se souvenir de tous ces moments où on se sentait plus précisément en sécurité, entouré des nôtres, dans l'amour de notre famille. Il en a du mal à partir, comme d'ailleurs on a souvent du mal à la fin de notre pèlerinage, encore une fois quand c'est possible, à quitter Lourdes pour retourner dans notre vie quotidienne. Mais qu'est-ce qui va nous donner le courage d'aller de l'avant? de nous tourner vers ce bonheur de l'autre monde qui nous est promis. Eh bien, c'est que dans notre marche, que nous voulons être une marche en gardant la loi du Seigneur, comme l'a chanté dans le psaume, c'est que le Seigneur lui-même est venu à notre rencontre. Le Seigneur lui-même vient marcher avec nous. C'est cette logique de l'incarnation dont parle Saint Jean dans la première lecture. Et que celui qui nie l'incarnation, celui qui nie que le Fils de Dieu s'est fait homme, c'est lui l'Antichrist. L'importance de l'incarnation, frères et sœurs bien-aimés, cette importance est vitale pour chacun d'entre nous, car c'est cette incarnation qui nous donne confiance en l'avenir. Le Fils éternel du Père a pris chair de la Vierge Marie pour nous sauver. Et comment l'a-t-il fait? En s'offrant en sacrifice sur la croix, en ressuscitant et en nous donnant ce corps ressuscité, ce corps glorieux, ce corps vainqueur de la mort, ce corps par lequel nous sommes tous unis les uns aux autres, en nous le donnant à manger. D'où cette expression un petit peu compliquée de l'Évangile, hein, lorsque les disciples demandent à Jésus « Où se fera le rassemblement final ?» Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Ce corps, c'est son corps. Son corps vainqueur de la mort. Ce corps ressuscité, ce corps glorieux qui se donne à manger à chacun d'entre nous dans l'Eucharistie. Oui, ce rassemblement. Et l'Eucharistie est le gage des biens à venir et le gage du bonheur qu'on désire. Et c'est cela qui nous permet d'aller de l'avant, de ne pas regarder en arrière malgré les tentations. Alors, puisque le Fils éternel du Père a pris chair de la Vierge Marie, qui d'autre, mieux que Marie, peut nous conduire à recevoir ce corps, comme elle l'a fait d'ailleurs pour Sainte Bernadette? Elle a été la catéchiste qui a préparé Sainte Bernadette à la première communion. Ce corps du Christ, c'est aussi l'Église où tous nous nous rassemblons. Alors peut-être dans ces temps compliqués, ces temps d'épreuve, ces temps où la peur peut nous assaillir, où nous n'avons plus la possibilité de nous rassembler le dimanche pour célébrer la résurrection du Seigneur, pour ensemble, en Église, nous nourrir de son corps, prions la Vierge Marie que les obstacles qui nous empêche de nous rassembler autour du corps et en un seul corps, soit levé, afin que l'Église puisse être ici, sur cette terre, témoin en se rassemblant de son espérance dans le bonheur que Dieu lui promet, que Dieu lui donne déjà à travers la grâce, et en particulier la grâce de l'Eucharistie. Amen.
L'essentiel de l'actualité avec Luc Vidal-Giro dans l'Occitanie, notre journaliste de Lourdes.
Le Premier ministre l'a annoncé hier soir, les règles ne changent pas pour les 15 prochains jours au moins. Le confinement reste en place et un nouveau point sur la situation aura lieu début décembre. La crise sanitaire, elle se poursuit. Illustration en Ariège, où suite à la confirmation de 6 cas positifs au coronavirus parmi ses élèves, le collège Mario Beleg à Ax-les-Thermes a annoncé sa fermeture jusqu'au jeudi 19 novembre prochain. En Aveyron, la situation est toujours pour le moins tendue pour l'hôpital de Rodez. Le directeur de l'hôpital rappelle que si le centre hospitalier fait actuellement face, il faut garder à l'esprit que 70% de la chirurgie a été déprogrammée. Le conseil départemental de la Haute-Garonne adopte une nouvelle série d'aides financières destinées à renforcer les dispositifs exceptionnels de soutien aux acteurs économiques mis en place en avril dernier. Ainsi, le fonds de prévention de la précarité et le fonds exceptionnel de soutien au monde associatif sont prolongés jusqu'à la fin 2021. L'anesthésiste belge poursuivi pour un accouchement fatal pour la mère qu'elle avait pratiqué en étant ivre à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques a été condamné hier à 3 ans de prison ferme et à l'interdiction définitive d'exercer la médecine. Un nouveau satellite conçu et construit à Toulouse doit prendre le chemin d'espace dans la nuit du 16 au 17 novembre. Baptisé Taranis et piloté par le CNES, sa mission vise à mieux comprendre certains phénomènes lumineux qui surviennent lors des orages. Le chantier du téléphérique toulousain avance. Les premiers câbles ont été installés hier. Une fois en service, ce projet permettra de réaliser le trajet de l'université Paul Sabatier à l'Oncopol en 10 minutes contre plus de 40 en voiture actuellement. Et puis en rugby, 9e journée du top 14. Ce soir, Castres reçoit Bègles-Bordeaux. Demain, Pau accueille le Stade Toulousain.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle?
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région,
c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Clonie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol,
un petit coup de gnoll,
les yeux de nos grands-mères,
la voix de nos grands-pères,
l'odeur de cette terre.
Puis sur les monnaies d'hier,
c'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, bâillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine,
elle veut juste dire je t'aime.
Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi serre-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Papaya, papaya, papa, 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 papaya, papaya, papa.
Acceptez ma rengaine,
elle veut juste dire je t'aime.
Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent.
C'était les 3 cafés gourmands qui vous encouragent dans la dernière ligne droite avant le week-end sur Présence. Pour cet après-midi, grand soleil, 17 degrés en moyenne dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Demain, le premier jour du week-end, le thermomètre affichera 10 degrés près du musée Champollion à Figeac, ainsi que dans les Hautes-Pyrénées, quelques nuages dans le Gers et près de la Hallograin à Toulouse. Vous aurez 13 degrés. Pour l'après-midi, là aussi, vous aurez un temps agréable avec de belles températures, 19 dans le Lot, ainsi qu'au golfe de Hoche et près du funiculaire du pic du Gers à Lourdes et à Saint-Gaudens, 15 dans l'Aveyron. seront pour dimanche. Le matin, un temps très nuageux et l'après-midi, de rares gouttes près de Cahors. De gros nuages pour le Gers et dans les Hautes-Pyrénées. Partout ailleurs, des rayons de soleil. Il fera 19 degrés de moyenne. Je vous laisse avec votre journal international de Radio Vatican. Et moi, pour ma part, je vous dis à lundi, midi.
Présence à Aspect 94.1
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Il y a 5 ans, la France était frappée par les pires attentats terroristes de son histoire récente. Hommage national à Paris sur les lieux mêmes des